aujourd'hui, c'est l'ouvrage de l'historien américain David Landes, « Richesse et pauvreté des nations » qui va nous intéresser. Un essai paru en 1998, dans lequel son auteur, qui est également professeur d'économie à Harvard, s'interroge sur les origines des inégalités de développement entre les pays. Et c'est Guillaume Vuillemet qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et professeur de finance à HEC Paris. Alors, tout comme Adam Smith dans La recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, qui a été publié en 1767, David Landes tente dans son ouvrage de répondre à cette question : pourquoi certains pays sont-ils pauvres et d'autres riches ?
Tout à fait. Alors, ce que fait Landes, c'est avant tout un historien de l'économie. Et donc, il essaie, à la différence d'Adam Smith, de prendre la question d'une perspective de très long terme. Et donc, il va regarder l'histoire européenne sur la très longue durée et essayer de comprendre à quel moment, notamment l'économie européenne, a décollé par rapport aux autres économies, notamment par rapport à la Chine. Et un très grand débat qui court depuis des décennies en histoire économique, c'est de se dire à quel moment est-ce que l'Europe et la Chine, qui étaient relativement comparables, ont décollé. Et quelles sont les raisons qui ont permis notamment la révolution industrielle et puis plus généralement l'enrichissement de l'Europe à un moment donné?
Pour Adam Smith, le levier de la création de richesse, c'était la division du travail. Pour David Landes, ce sont les facteurs culturels, les valeurs propres à chaque société. Alors, en quoi consistent ces valeurs dont il parle?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un débat extrêmement compliqué et que l'ouvrage de Landes, qui fait 800 pages, est un ouvrage extrêmement dense, extrêmement riche, avec beaucoup de choses. Mais la principale raison qu'il met en avant, effectivement, c'est ce qu'il appelle la culture et ce qui, en fait, est plus, faut voir comme une attitude devant le progrès technique ou devant la connaissance. Landes, en fait, reprend une thèse bien connue de Max Weber qui liait l'éthique du capitalisme au protestantisme, donc à des valeurs et à un changement d'attitude devant le travail, devant l'épargne, devant l'accumulation de richesses et plus généralement devant la connaissance scientifique. Et donc effectivement, David Landes nous dit qu'à une époque assez reculée déjà dès le Moyen-Âge et plus encore à la Renaissance, les Européens ont une attitude spécifique devant la connaissance scientifique, la méthode scientifique, etc.
Et alors en cela, il s'oppose à la théorie de Marx, qui est peut-être l'autre courant qui cherche à expliquer l'essor de la révolution industrielle qui a entraîné une incroyable accélération de la croissance économique européenne. La vision de Marx, c'est au contraire que la richesse serait liée au changement technique.
Tout à fait. Donc il y a en gros, on va dire, deux ou trois grandes théories sur le décollement économique de l'Europe. Donc une théorie, c'est Landes, qui met davantage l'accent sur la culture et également les institutions. Il y a la théorie marxiste, qui est une théorie qui met l'accent beaucoup plus sur le progrès technique et également, par ailleurs, sur l'impérialisme. Et une troisième théorie, qui est un peu plus récente, qui est notamment associée au nom de Kenneth Pomerantz, qui était un des critiques de Landes, qui est de dire qu'en fait, il y a un facteur de chance qui est assez considérable. Et auquel cas, ce serait lié à des raisons notamment écologiques et notamment la présence de charbon en Angleterre qui, à un moment donné, au 18e, en gros, a permis, pour des raisons assez contingentes, un décollage économique de l'Angleterre.
Pour expliquer la croissance européenne, Landes parle en effet de cette fragmentation politique que vous évoquiez et il explique que la chute de l'Empire romain est finalement peut-être une chance pour l'Europe parce que cela a permis aux différentes entités géographiques d'entrer en concurrence.
Tout à fait. Donc c'est exactement ça. Donc ce que dit Landes, c'est en fait, il réhabilite un peu la féodalité ou en tout cas le morcellement qui a été considérable au Moyen-Âge avec des cités-états. On pense à Venise, on pense à des villes comme Gênes, à des villes comme ça, mais avec également des communes qui étaient relativement libres. Donc la liberté au sens médiéval, c'est-à-dire la capacité à s'auto-organiser localement et avec des seigneuries, des féodalités, une très grande diversité finalement de structures juridiques, qu'un grand nombre d'auteurs, comme Goethe par exemple, a écrit là-dessus, sur le rôle de cette émulation entre de très grands nombres d'entités juridiques, politiques distinctes, dans l'essor de la culture et de l'économie européenne.
Alors afin de prouver que c'est la culture plus que l'argent qui entraîne le développement, David Landes, vous l'avez dit, s'appuie sur le cas de la Chine, qui a été finalement la première puissance à se développer, mais au XVIe siècle, alors qu'elle a un siècle d'avance sur l'Europe, elle commence à stagner.
Tout à fait. Alors là, il y a un moment très intéressant et un épisode qui est très souvent relaté. C'est 1525, donc début 16e. La Chine a une supériorité technique considérable sur l'Europe, notamment en termes navals. La caravelle de Christophe Colomb qui débarque aux États-Unis fait en gros 20 mètres de long. les Chinois ont des bateaux qui font 120 mètres de long, ce qui n'existe pas en Europe à l'époque. Et à partir de 1525, l'Empire chinois décide, alors on ne sait pas trop, soit d'abandonner sa flotte, soit de détruire carrément sa flotte, et de se fermer beaucoup plus aux échanges, d'abandonner l'exploration maritime. Et donc, deux attitudes très différentes vis-à-vis de l'exploration et plus généralement de la connaissance scientifique à l'époque où c'est la Renaissance qui commence évidemment en Europe.
Ce qui explique que les Portugais vont imposer leur suprématie maritime en mer de Chine, contrairement aux Chinois.
Tout à fait, voilà, ce qui pourrait effectivement sembler un peu surprenant autrement.
David Landes estime aussi que la discrimination des femmes est un important frein au développement, notamment parce que, dit-il, le sentiment de supériorité qui est inculqué aux hommes les priverait d'ambition. En cela, il reprend des idées qui ont été développées par John Stuart Mill dès le 19e siècle.
Tout à fait. Donc, c'est ça qui est très riche chez Landes, c'est qu'il incorpore, c'est quelqu'un qui a lu frénétiquement toute sa vie et qui incorpore des explications issues de la philosophie, de l'économie, de l'histoire des religions, de la sociologie. Et donc, il a effectivement des parties sur le rôle des femmes et sur la famille également. Il suit en cela un autre historien très important qui était Eric Jones, qui avait écrit un ouvrage en 81 sur le miracle européen, où il montrait que les différences de structure familiale avaient pu expliquer, notamment par le partage des héritages et les incitations que ça donnait aux aînés par rapport aux cadets, etc., contribuer au développement économique. Donc c'est effectivement une des causes qui met en évidence, parmi beaucoup d'autres.
Pour David Landes, les origines de l'essor occidental ne doivent pas être cherchées du côté de la colonisation et de l'esclavage, qui, dit-il, n'ont joué qu'un rôle marginal dans la croissance du monde occidental. Alors est-ce que ce n'est pas là la grande limite de son ouvrage, cette insuffisante prise en compte de l'impact économique, donc de la colonisation et de l'esclavage, pour les pays qui en ont profité d'une part et pour ceux qui en ont été victimes de l'autre?
Alors c'est évidemment un point de l'œuvre de Landes qui a suscité le plus de controverses et qui continue toujours à en susciter. Le débat n'est jamais complètement clos. Donc sur l'aspect, il y a évidemment deux choses. Il y a l'aspect moral de la colonisation qui est évidemment tout à fait condamnable. Et après, il y a l'aspect économique, de dire est-ce que économiquement ça a été une bonne affaire ou une mauvaise affaire. Et là-dessus, je crois que les choses actuelles sont très compliqué, et c'est sûrement un des points sur lesquels l'œuvre de Landes reste pas complètement claire et satisfaisante.
Sa thèse, très contestable en effet, a en tout cas provoqué d'âpres débats dans le monde anglo-saxon, qui sont les économistes et les penseurs qui se sont mobilisés autour de cette question.
Donc une des principales équipes qui s'est opposée à Landes, c'est ce qu'on appelle l'école de Californie, donc autour d'un spécialiste de la Chine qui s'appelle Kenneth Pomerance, qui est à l'université de Californie, qui a écrit un ouvrage également très important dans ce grand débat sur l'essor économique de l'Europe, qui s'appelle La Grande Divergence. Donc, La Grande Divergence étant évidemment cet essor économique de l'Europe, et commençant par l'Angleterre. Et en gros, ce que dit Pomerance, c'est que contrairement à ce que croit Landes et à ce que beaucoup d'autres économistes ont dit, les conditions en Chine et en Europe ont été très similaires jusque très tard. Lui dit le 18e siècle, ce qui depuis est contesté. C'est des débats très compliqués évidemment, donc on peut pas tout résumer. Mais lui dit c'est vraiment la ressource énergétique, donc le charbon, et puis ensuite la colonisation qui ont permis la supériorité britannique. Et c'est un débat qui n'est pas clos et qui probablement ne le sera jamais, parce que c'est extrêmement compliqué et forcément plurifactoriel.
Il y a d'autres éléments qu'on peut reprocher à cet ouvrage de David Landes, peut-être un certain ethnocentrisme et puis aussi un certain déterminisme. Il rend d'une certaine façon les pays responsables de leur pauvreté ou de leur richesse.
Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que sur l'aspect ethnocentrique, c'est probablement pas forcément très bien le comprendre. Je crois pas qu'il... Alors, c'est un point de débat. Je sais pas si Landes à une hiérarchie des valeurs, etc. Il dit, voilà, telle valeur emmenait à telle chose, mais c'est pas dire qu'il les classe. Je pense que là où il est critiquable, c'est qu'il fait du modèle européen de croissance une sorte de modèle pour tout le monde. Et dans en ce sens-là, on peut appeler ça eurocentrisme ou ethnocentrisme, je sais pas si le terme était exact, mais il fait du modèle de développement tel qu'il s'est manifesté en Europe, notamment à la révolution industrielle, un modèle pour tout le monde. On voit deux siècles plus tard, avec tous les débats sur les limites de la croissance, etc., que c'était pas forcément un modèle qui sera soutenable encore très longtemps, et donc des modèles alternatifs sont également très intéressants. Je pense que ça, c'est probablement une des limites de l'œuvre de Landes.
Et sur le fait de rendre responsables les pays de leur performance économique.
Alors ça, c'est un autre sujet qui est très compliqué. C'est-à-dire que Landes dit la culture, ce qui est tout à fait vrai, je pense, détermine l'attitude devant la vie, devant la technologie, devant la connaissance, etc. Mais ce qui ne dit pas, c'est que les cultures peuvent changer. Et essayer de comprendre quelles sont les dynamiques qui impliquent des changements culturels, c'est intéressant. Donc, il reprend la thèse de Weber, je l'ai dit, sur le protestantisme, qui à un moment donné diffère par rapport à l'attitude catholique, disons, vis-à-vis de l'épargne et du travail, de l'accumulation de la richesse, du temps, etc., de l'effort. Donc ça signifie qu'à un moment donné, les cultures peuvent changer, mais c'est un point sur lequel il théorise finalement très très peu, et c'est effectivement sûrement une des limites. Hein.
Est-ce que, Guillaume Villemet, la thèse de David Landes vous paraît encore valable aujourd'hui, 20 ans après sa parution? Le débat sur les origines de la richesse des nations existe toujours entre les économistes?
Le débat est très vif, et alors la raison pour laquelle j'ai présenté cet ouvrage, c'est pas pour le défendre ou l'attaquer en tant que tel, c'est plus pour introduire le débat qui reste absolument très très vif et qui probablement va le rester pendant longtemps. Les grands enjeux sont doubles. C'est déjà essayer de au fur et à mesure qu'on accumule de la documentation, dater de mieux en mieux le moment à partir duquel l'économie européenne a décollé par rapport à l'économie chinoise ou par rapport aux économies islamiques, et puis essayer de comprendre les causes. Et donc évidemment les deux sont très liés, puisque selon la data, on va chercher des causes différentes. Et ce débat-là reste extrêmement fertile en controverses qui durent et qui, à mon avis, ne sont pas près de s'éteindre.
Est-ce qu'on entend d'autres voix dans ce débat, des économistes chinois ou d'autres pays émergents?
Alors, c'est tout à fait intéressant, oui. Donc, dans cette école de Californie, il y a des économistes chinois. Pomerantz a un co-auteur chinois qui travaille avec lui. Le problème de la Chine, pour autant que je puisse en parler, puisque je n'ai pas moi-même travaillé sur les sources chinoises, c'est qu'il y a beaucoup... Il y a moins de matière écrite et il y a moins de sources d'archives pour travailler et reconstruire, pour quantifier des nombres de navires, des données de douanières, etc. C'est beaucoup plus difficile à faire en Chine. Et donc les quelques exemples que l'on a reposent sur des exemples très spécifiques de ports où des archives ont été conservées. Mais avoir une vision d'ensemble sur la Chine est évidemment très complexe et nécessite encore beaucoup de travail. Donc c'est un domaine dans lequel on a de plus en plus de travaux, et je crois que comme beaucoup de questions en science, plus on accumule de matière, moins la réponse est évidente en fait.
Merci beaucoup Guillaume Villemet de nous avoir fait découvrir Richesse et pauvreté des nations de David Landes. Je précise que vous avez par ailleurs traduit l'ouvrage de Friedrich Hayek, The Denationalization of Money, pour une vraie concurrence de la monnaie, paru au PUF. Un grand merci.